Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Et n'est-il pas temps de mettre un fin à cette procédure ? Franchement, 26 ans, ça coûte cher à l'État, c'est-à-dire aux citoyens, non ? Je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs Brunet et Neumann, bonjour.
Bonjour.
N'est-il pas temps de mettre fin ? C'est une question que je pose, qui se pose. Moi, je me mets à la place des contribuables.
À l'heure où on se parle, il reste 9 jours au parquet pour savoir s'ils font appel ou pas appel. Mmh. Mais enfin, cette décision d'hier, moi, m'inspire 3 réflexions. La première, pardon, et c'est une question d'hygiène intellectuelle, la présomption d'innocence, c'est pas pour les chiens.
Mmh. Voilà. Bravo.
Premier point. Deuxième point quand même, et là aussi c'est une question d'hygiène intellectuelle, quand les réquisitions du parquet sont publiques, elles ne valent pas condamnation. La preuve, le parquet demande des réquisitions très hautes, et à l'arrivée, rien.
Bravo.
Relax. Troisième élément, là je vais faire appel parce que je suis un vieux journaliste, mais première année de droit, premier semestre, le pénal tient le civil en l'état. D'abord, on juge au pénal avant de juger au civil. Pourquoi dans cette affaire on a jugé au civil avant de juger au pénal et par ailleurs en utilisant une partie seulement des pièces au pénal ? Aujourd'hui, ce que dit cette décision de relax invalide totalement la fraude au civil. Et pourtant, elle est rédhibitoire, elle est définitive.
Éric Brunet n'est pas d'accord.
Je veux bien qu'il y a le personnage tapis, son histoire controversée, c'est haut, c'est bas.
Mais oublions ça.
Très bien.
Ça ne doit pas entrer en ligne de compte.
On est dans un état de droit.
Non, mais monsieur Brunet, pardon une seconde et pardon de vous couper. Si c'était pas appelé Bernard Tapie, j'aurais rien eu de tout ça, c'est pas la peine de se mentir à soi-même. Le début de cette affaire est éminemment politique et tout ce qui s'est passé est purement ad hominem. On va pas imaginer qu'une cour d'appel aurait révisé un arbitrage dans des conditions pareilles si ça n'avait pas été Bernard Tapie. Toute autre réflexion que celle-ci n'a même pas de sens. Oui, voilà.
Éric Brunet.
Je suis pas d'accord.
Si, moi je suis d'accord. La première chose, il faut qu'on parle de notre propre schizophrénie, nous, les journalistes, les éditorialistes, hier, avec Laurent Neumann, Barbier, on était 4 ou 5 là réunis. Vous savez, après avoir parlé chez vous, là, 7h50, Jean-Jacques, on s'est réunis. Bon.
Oui. D'où vous voir vous réunir. Je me demande ce que vous comprenez, d'ailleurs.
On accompagne ce pauvre Laurent Neumann qui va se tuer tous les matins en fumant quelques cigarettes. Qu'est-ce qu'on se disait on disait, oui, il va prendre 3 ans ferme, et tous les éditocrates que nous sommes, nous étions absolument certains que son sort était scellé, donc on parlait pas, comme le dit Laurent, de la présomption d'innocence de Tapie. On était en train de dire, est-ce qu'il va aller en prison, est-ce qu'il va pas y aller, est-ce que sa maladie va jouer, est-ce que ça sera 2 ans, est-ce que ça sera 3 ans. Je me souviens même de
la maladie, ça joue pas dans un
pas du tout. J'ai envoyé là où il devait aller un de vos collègues qui m'a appelé la veille du procès pour me demander ce qui se passerait s'il était condamné à une peine de prison, où il l'exécuterait, etc. Bref, la maladie, Bernard Tapie, et ça, je lui en sais gré, et il n'a pas eu besoin d'aller au bout de sa phrase, avant le début du procès, il m'a dit, pas question qu'on en parle. On ne l'a pas évoqué une seule fois.
Et on ne va pas jouer avec ça.
Mais bien sûr que non. Et je pense que si un médecin l'avait expertisé avant le début du procès, il aurait conclu qu'il n'était pas en état de comparaître pendant un mois.
Non mais juste aussi, parce que là je parle sous le contrôle de Maître Thémy, mais on était devant un tribunal correctionnel, pas devant les assises. Non. Et il me semble que pendant le procès, la présidente vous a dit, Maître Thémy, on n'est pas devant les assises, ici il y a un dossier. Et absolument. Donc on juge en droit. Il y a un dossier, ce sont des faits. On ne juge pas sur les émotions devant un tribunal correctionnel.
Oui, alors là, elle m'a dit ça, c'est vrai, parce que j'ai eu un incident avec elle relativement violent mais qui s'est apaisé, et parce que la différence avec les assises en correctionnel, c'est que aux assises les jurés ne délibèrent pas avec le dossier. Mais non, mais comme vous dites, les éditocrates, je veux pas faire le procès de l'époque, ce serait aberrant, même si, et puis surtout trop long, et là il faudrait être un procureur, mais ils passent leur temps à parler de sujets, je parle des affaires judiciaires, hein, pas d'autres, qu'ils connaissent pas. Aujourd'hui tout le monde juge tout le monde en permanence avec en plus des jugements péremptoires, en parlant de sujets qu'ils ne connaissent pas. Hier, j'ai eu à répliquer à un remarquable type d'anticorps, il ne connaissait pas une ligne du dossier. Mais c'est merveilleux. Et moins on connaît le sujet dont on parle, et plus on est sûr de soi. Je vois sur les chaînes infos en permanence, et je ne fais pas leur procès, c'est un fait. Est-ce que ça va durer? J'en suis pas sûr. Aux États-Unis, ça a cessé. Je vois des avocats qui ne sont pas dans les dossiers, parler de dossiers qu'ils ne connaissent pas, dans lesquels d'ailleurs souvent ils rêvent de rentrer, pour dire des inepties. Et tout le monde trouve ça merveilleux. Et on se dit, bah tiens, ça a marché, peut-être que demain, on va encore faire plus d'audience. Faut arrêter. Et c'est pour ça que les leçons que vous tirez, elles sont essentielles, elles sont justes.
Eric, vous voulez terminer votre démonstration? Non, vous y allez jusqu'où?
Je voulais dire que dans cette affaire, d'abord, oui. Tapie a été sali, parce que moi je suis extrêmement sensible à ça, espèce de les gens parlent, bavassent sur les chaînes d'infos, partout, dans les médias, les radios, etc. Et c'est heureusement que Tapie a le cuir, mais on a vu des gens comme ça, Eric Woerth, etc., des politiques qui ont été pendant des années souillés, puis à la fin juridiquement blanchis. Et moi, pardonnez-moi, c'est un peu une banalité que j'énonce, mais je trouve ça extrêmement douloureux. Et à chaque fois que ce genre de choses survient, je fais une espèce d'examen personnel. Je me dis, tiens, il y a un mois, il y a six mois, dans telle émission, tu en as parlé de Tapie toi-même, en des termes pas très élogieux, et je regrette de le faire. Et nous le faisons, ma foi, trop souvent, ce genre de choses. Alors Laurent Neumann dit, oui, présomption d'innocence. Oui, enfin, ça, c'est des banalités. La réalité, c'est que ces règles-là, nous les transgressons nous-mêmes.
Sans arrêt. Non, mais c'est pas d'abord, c'est pas une banalité. Ce que vous dites non plus, c'est pas une banalité. C'est malheureusement très important parce qu'on parle de Bernard Tapie. À la limite, oui, Bernard Tapie, il a été sali, mais on le connaît. C'est un type hors norme qui a un destin hors norme. C'était dans son esprit un peu dans les risques qu'il pouvait encourir de se trouver au milieu de tornades pareilles. Mais pensez aux autres. Maurice Lantourne, c'est un avocat qui a dû faire face alors qu'il était mis en examen, que son nom était partout, qu'il était présenté comme coupable, comme l'artisan de la fraude. Le juge Pierre Estoupe, qui a voulu être jugé en son absence parce qu'il voulait mourir innocenté, qu'on a considéré comme nécessairement coupable. Stéphane Richard, je vous promets, alors peut-être que j'ai le tort d'être trop pénaliste, j'ai toujours pas compris ce que pénalement on pouvait lui reprocher. On était dans l'appréciation d'une responsabilité politique. Ce type, Stéphane Richard, que je ne connaissais pas, que je ne connais d'ailleurs toujours pas, sauf pour l'avoir fréquenté. Vous savez, c'est tellement violent la justice pénale, quand il a été en garde à vue, il a fait un malaise. Il n'a pas fait un malaise parce qu'on le maltraitait physiquement. Il n'a pas fait un malaise parce qu'il était détenu dans des mauvaises conditions. Il a fait un malaise parce que psychologiquement, le fait d'être en garde à vue, mais c'est pas rien, moi, si je m'y trouvais. Et pourtant, ça fait 40 ans que je suis avocat. Vous croyez que j'accepterais facilement? C'est dégueulasse. Je vous le dis comme je le pense, c'est dégueulasse de mettre en jeu l'honneur de gens avec des dossiers aussi fragiles. Voilà. Alors, vous avez raison, mais c'est pire pour ceux qui sont moins exposés publiquement et politiquement, dont c'est moins dans le cadre de la vie habituelle que pour les autres.
Oui, j'ajoute un dernier point, parce qu'à chaque fois qu'un homme politique ou un homme public est concerné par une affaire judiciaire, il y a la tentation chez eux de dire que la justice n'est pas indépendante.
Bah, la preuve, mais elle l'est.
La preuve
elle
que
l'est.
Si.
Moi, j'y crois. Je suis peut-être un bonnet, mais j'y crois. Elle l'est. Mais la justice, c'est les jugements. C'est pas les poursuites. C'est pas les réquisitions. C'est pas l'instruction.
Merci, messieurs. Il est 7h59. Vous êtes sur RMC et RMC Découverte.